Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, une reine, une impératrice. Sissi, bonjour Jean Descartes.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue, vous êtes journaliste, historien. Dans quelques mois, on va commémorer les 120 ans de la mort de Sissi, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. On va commencer par la fin. Comment est-elle morte? C'était le 10 septembre 1898.
Eh bien, elle se trouvait en Suisse, à Genève, qu'elle aimait beaucoup depuis 24 heures. Elle avait congédié à peu près toute sa suite, son train spécial, son chambellan, ses femmes de chambre. Et elle n'avait plus comme compagne que sa dame d'honneur, la comtesse Zara, une Hongroise. Car il faut bien se souvenir que Elisabeth était aussi Erzsébet, la reine de Hongrie, où elle est toujours aussi populaire aujourd'hui.
Donc elle a peu de gens avec elle, une seule personne.
La directrice et propriétaire de l'hôtel Beau-Rivage à Genève dit « Mais je suis affolée, votre majesté, vous êtes toute seule, que va-t-il se passer ?» Il y a même les policiers suisses ont été congédiés.
Et alors qu'est-ce qui lui arrive ?
Bien, elle est sur le quai du Mont-Blanc, en tout début d'après-midi, elle va prendre le bateau de la compagnie de navigation et en arrivant sur le quai du Mont-Blanc, devant ce qu'on appelle le jardin Brunswick à Genève, elle voit un homme qui titube, qui se précipite, qui a l'air d'être pressé, bousculé. Il tombe sur elle et elle tombe par terre. Bon, on réalisera tardivement qu'il a planté un poinçon de sa fabrication dans le cœur d'Elisabeth. Je précise, c'est très émouvant. J'ai pu établir qu'elle avait écrit 20 ans avant, ma vie s'en ira par une toute petite ouverture du cœur. C'est exactement ce qui se passe.
Sissi était devenue impératrice d'Autriche à seulement 17 ans. On vous raconte le coup de foudre avec François Joseph et l'omniprésente belle-mère Sophie. Restez avec nous sur RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Depuis son mariage en 1828, le duc Max en Bavière et son épouse la duchesse Ludovica a donné naissance à 8 enfants.
RTL.
Sissi est le troisième de cette union heureuse. Elle est née la veille du jour de Noël 1837 et on la baptise Elisabeth en l'honneur de sa tante, la reine de Prusse.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Elle sera cependant toute sa vie surnommée affectueusement Sissi.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
La curiosité, c'est du lundi au vendredi sur RTL, de 14h à 15h. Dans nos tiroirs, on a de l'histoire, de la science, de l'aventure, des sagas musicales et des grands destins comme celui que l'on découvre aujourd'hui. Sissi, impératrice d'Autriche. Nous sommes toujours avec Jean Descartes, historien, journaliste. La jeune Elisabeth, Jean Descartes, devient impératrice à l'âge de 17 ans. Est-ce que c'est un coup de foudre, comme le dit la légende, cette rencontre avec son futur mari, François Joseph?
Ah ben, c'est un coup de foudre de sa part à lui, le jeune empereur d'Autriche, qui est monté sur le trône en 1848 et qui s'est consacré à la restauration de la couronne des Habsbourg. Il faut bien se souvenir que l'Europe est agitée par la révolution un peu partout et que le peuple hongrois s'est révolté contre les Habsbourg. Donc il a pris la couronne, il a pris le pouvoir grâce à l'influence de sa mère, qui est la tante de Sissi, n'est-ce pas, avant d'être sa belle-mère plus tard.
Alors il faut raconter leur première rencontre, c'est un coup
Alors
de
la première rencontre, oui, dans les années 1853, à Bad Ischls, une station thermale élégante en Autriche. Il n'était pas prévu que Sissi fasse partie de ce voyage. Et il n'était surtout pas prévu qu'elle devienne l'épouse de François Joseph, parce que les deux marieuses, c'est-à-dire la mère de Sissi et sa sœur Sophie, l'archiduchesse, la mère de François Joseph, avaient pensé à Hélène, la sœur aînée de Sissi. Alors Hélène est parfaite, elle est tellement parfaite qu'immédiatement François Joseph s'ennuie avec elle. Elle est jolie, elle ne fait pas de gaffe, elle est bien coiffée, enfin bref.
Et c'est comment alors Sissi se retrouve sur le chemin comme ça de François Joseph, alors rien ne les prédestine.
Bah oui, mais c'est ça, un coup de Cupidon, une erreur d'aiguillage de l'amour, c'est merveilleux. Elle arrive en retard avec les cheveux mal coiffés, elle a de la paille dans les cheveux, puis elle a un sourire et un regard de miel, il est sous le charme. Cet homme qui était habitué aux aventures faciles, j'allais dire programmé par sa mère pratiquement, et là, sous le charme, il sera amoureux toute sa vie de Sissi jusqu'au bout. Ce sera très compliqué. Elle, la pauvre, elle a pas 16 ans à ce moment-là quand ils se rencontrent. Elle n'a pas eu le temps de dire oui ou non. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle dit simplement « si seulement il n'était pas empereur ». Bien sûr, elle le trouve séduisant. C'est un homme qui a beaucoup de charme et qui est en apparence normal alors qu'il avait un oncle déficient et un père assez débile. Et inversement, si je puis dire. Donc il est très sain. Il est fou de joie Alors, elle est très grande, 1m72, 55 cm de tour de taille. Elle a une allure, une apparition physique qui va être une arme.
Et donc, ils vont se marier le 24 avril 1854. Il faut parler du rôle de Sophie, donc de sa belle-mère. Est-ce que Sissi, est-ce qu'Elisabeth prend conscience de ce qui lui tombe dessus, d'une certaine façon ?
Non, pas du tout. Elle prend conscience que sa belle-mère est tante, est un véritable dragon qui fait respecter le protocole. On ne fait pas, et il y a très peu de choses qu'on peut faire. Et parmi les choses qui vont blesser Elisabeth, qui a été élevée à la campagne, son père à Munich, dans son palais, avait un cirque, donc elle monte à cheval, c'est une amazone émérite. Elle écrit des poèmes au vent, aux oiseaux, aux chiens.
Elle n'a plus le droit de faire tout ça, si
elle n'a plus le droit de faire tout ça, elle n'a plus le droit d'embrasser ses cousins, parce qu'elle est devenue impératrice d'Autriche.
Parce qu'elle doit être distante, c'est ça que lui apprend sa belle-mère.
Elle doit garder une certaine distance, donc elle a sous sa houlette, en étant l'épouse consort, elle a 55 millions de sujets, 15 ethnies différentes. C'est immense, l'Empire d'Autriche à l'époque, on n'imagine pas ce que c'est.
Qu'est-ce que la belle-mère de Sissi, Sophie, va imposer à Sissi pendant sa grossesse, par exemple ?
Eh bien, elle va lui imposer de ne jamais sortir, de rester toute la journée avec un rond de dame, de tenir des propos lignifiants, de ne pas accompagner son mari à son bureau comme si elle était l'épouse d'un commerçant. Que veut Sissi ? Et ça, c'est très émouvant et très moderne, et c'est ce qui nous touche beaucoup. Elle veut être avec son mari, avec celui qu'elle aime. Elle ne veut pas ce protocole, ce carcan de la cour d'Autriche où elle ne peut rien faire et où tout le monde la regarde. Elle veut bien voir, elle ne veut pas être vue.
Et le prénom de ce premier enfant qu'elle porte, c'est une fille, il dit tout de la guerre d'influence,
ah
elle
bah
va s'appeler comment ?
C'est la grand-mère qui a choisi le prénom, Sophie. Donc, ça, la mère n'a pas eu le droit au chapitre.
Donc elle va porter, voilà. c'est sa belle-mère qui choisit
la rencontre de deux tempéraments, de deux générations, anciens et modernes, il est évident que Sissi est beaucoup trop jeune, trop naturelle, élevée en toute liberté, et sa belle-mère et tante est une femme qui a connu le congrès de Vienne, dont Metternich et Talleyrand disaient c'est le seul homme de la famille, donc c'est terrible. Ouais. Sa belle-mère avait connu les remparts de Vienne contre les Turcs, Sissi sera contente qu'on les abatte.
Jean Descartes, vous publiez Sissi aussi libre que le vent, c'est aux éditions Grunt et Perrin, et puis François-Joseph et Sissi, le devoir et la rébellion, toujours chez Perrin. On va essayer de comprendre comment, malgré ce carcan, cette étiquette, Elisabeth d'Autriche a pu conquérir sa liberté. Réponse à venir sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sissi, impératrice au menu de notre curiosité, c'est l'écrivain et historien Jean Descartes qui nous dévoile les secrets d'Elisabeth d'Autriche. On a découvert, grâce à vous, l'omniprésence de sa belle-mère Sophie, qui lui avait même retiré l'éducation de ses propres enfants. D'ailleurs, Sissi va se rebeller en 1865. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir ?
Elle veut obtenir la garde de ses enfants ou la surveillance, parce que quand elle découvre que le système d'éducation qu'on a prévu est catastrophique, et ça va s'aggraver plus tard avec son fils Rodolphe, quand elle découvrira que à ce petit garçon, on a donné un précepteur qui lui fait tirer des coups de revolver dans l'oreille en lui disant « Attention monseigneur, un sanglier vous charge », bref, tout ça est idiot. Et elle lance un ultimatum, je résume ici, à François-Joseph, disant « Ou bien je m'occupe de mes enfants ou je m'en vais ». Or, elle est déjà partie. Alors, il faut bien comprendre qu'elle ne fuit pas son mari, qu'elle adore. Elle fuit le protocole de la cour de Vienne. Elle fuit les regards et les commentaires, le fait qu'elle veuille poser pour Winterhalter avec ses cheveux défaits, n'est-ce pas, dans une tenue nocturne, un tableau que seul l'empereur devrait avoir le droit de voir. Ou le fait qu'elle fume à table, qu'elle boive de la bière, qu'elle se comporte comme dans une taverne de Bavière,
qu'elle
fasse de la gymnastique, elle perd sa personnalité.
Et elle perd son bras de fer aussi avec sa
alors,
belle-mère.
Elle s'en va.
Ouais. Sans ses enfants.
D'abord Madère, sans ses enfants. Alors, c'est une leçon politique grave et très dangereuse, parce qu'elle s'en va en terre extérieure à celle de l'Empire. Elle s'en va pendant plusieurs mois. Son mari souffre beaucoup. Il est très, très malheureux, mais il comprend. Il faut dire, entre nous, que ça n'est pas drôle d'avoir des scènes entre sa mère et sa femme. Mmh. C'est un pire cauchemar pour un mari. Donc il ne va pas trancher, il veut avoir la paix parce qu'il a quand même quelques soucis politiques et militaires dans l'Europe qui bougent. Hein. La guerre de Crimée, par exemple, dans laquelle il n'est pas partie prenante, mais enfin, une rivalité entre la France, la Russie, l'Empire ottoman...
Jean Descartes, si on revient à l'histoire familiale, pardon, donc c'est 1865, c'est ce que vous nous racontiez, elle veut récupérer l'éducation de son fils, qui est l'héritier de l'Empire, oui. parce qu'il est martyrisé clairement par, oui, par ce précepteur. Absolument. Est-ce qu'elle va gagner ce bras de fer ?
Alors elle gagne ce bras de fer, alors c'est peut-être un peu tard parce que ça a fait des dégâts dans l'éducation stupide qui a été donnée à Rodolphe notamment, mais elle gagne parce qu'elle met François-Joseph en demeure, ou c'est ça, ou je m'en vais. Et François-Joseph est tellement amoureux, il aime tellement sa femme, et il a compris une chose qu'il ne va pas réaliser tout de suite, il faut le dire. C'est que la beauté, la finesse, l'élégance, l'allure d'Élisabeth est devenue une arme politique. Alors, elle n'a aucun rôle ni aucun pouvoir constitutionnel, il faut être très clair, mais elle va se servir d'une chose qui est différente, qui s'appelle l'influence. Et c'est avec sa beauté, son élégance, son indépendance provocatrice qu'elle va réussir.
Elle ressemble à quoi, Sissi ? Parce que nous, on a tous, Jean Descartes, l'image évidemment de Romy Schneider, mutine et absolument divine. La vraie Sissi, elle est comment ?
Bien, je vais vous révéler une chose. Il y a dans la cathédrale de Budapest un buste de Hergé Bet au moment de son couronnement de reine de Hongrie en 1867. Ce buste a été offert en 1867 par les femmes de Budapest. Vous le regardez, et avec des confrères et consoeurs à vous, j'ai fait une grande émission de télévision là-dessus, c'est Romy Schneider. Alors, je parle du buste, pas du reste des mensurations. Ouais. Bon, elle est très belle. Alors, un point d'orgue à signaler. Nous connaissons tous Sissi par les films avec Romy Schneider, oui, qui sortent en 1955 pour le début. Attention, ça n'est pas une date au hasard. C'est la période, le 16 mai 1855, où l'Autriche retrouve son indépendance juridique internationale. C'est-à-dire que les Français, les Britanniques, les Soviétiques, les Américains quittent l'Autriche et viennent voir le film Le Troisième Homme. Donc que pouvait nous envoyer l'Autriche autre chose qu'une carte postale ? On nous envoie Sissi. Et jamais Romy Schneider n'aurait fait la carrière qu'elle a faite après sans ce rôle qui était une mémoire de l'Autriche qui était alors oubliée, il faut bien le dire.
La curiosité continue sur RTL. On se passionne pour le destin de Sissi, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, riche, sportive, femme d'affaires, tout pour être heureuse. Alors pourquoi était-elle dépressive ?
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
RTL. Une épopée cinématographique.
RTL.
Élisabeth de Wittelsbach, duchesse de Bavière.
Mais qui est-ce ? C'est une princesse ? Je la connais peut-être.
La curiosité est un vilain défaut.
Impératrice d'Autriche.
Assez, j'ai beaucoup trop parlé de moi. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. Je sais que c'est vous que j'aime.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Romy Schneider, dans le rôle émouvant de Sissi.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Et merci d'avoir choisi la première radio de France. Merci d'être fidèle aux 14-15 heures de RTL. Vous le savez, on aime l'histoire, les grands destins. Et on est donc heureux de vous raconter cet après-midi la vie de Sissi, devenue impératrice donc à l'âge de 17 ans. Jean Descartes, je rappelle que vous êtes historien. Vous publiez notamment François-Joseph et Sissi, le devoir et la rébellion chez Perrin. Je voudrais qu'on revienne sur le physique, la beauté d'Élisabeth d'Autriche et peut-être cette obsession pour le corps. Était-elle anorexique ?
Alors, oui et non. On a dit qu'elle ne mangeait rien. Non, c'est faux. Elle mangeait tout le temps en petites quantités. Des boulettes de pain, des boulettes de viande, des laitages. Mais elle surveillait son tour de taille parce qu'elle avait compris que ce serait une différence par rapport aux dames un peu confortables. Quand elle fréquentait la reine Victoria qui ressemblait un peu à une théière trapue, ça faisait une différence. Élisabeth apparaissant quelque part, tout le monde disait « il se passe quelque chose ».
Mais est-ce qu'elle allait jusqu'à martyriser son corps avec des corsets ? On dit qu'elle dormait assise.
Des corsets, oui, elle a fait des régimes qui étaient démentiels et elle a arrêté quand son médecin lui a dit « ça va vous vieillir, madame ». Quand elle a fait de la gymnastique, et on peut encore voir au palais de la Hofburg à Vienne, suspendue à des agrès alors qu'elle était montée à cheval à 6h du matin, c'était la panique à la cour, sa belle-mère a dit « elle est folle ». Puis quand elle a annoncé qu'elle prenait un bain tous les jours, sa belle-mère a dit « c'est une anarchiste ». Donc c'est une révolution, Sissi, une révolution de la femme, en même temps avec non seulement une plastique séduisante, mais un esprit politique. Hein. C'est ce qui va faire son succès en Hongrie. Elle comprend que la Hongrie va soutenir l'Autriche.
Oui, on a tous en tête Sissi, impératrice d'Autriche, mais aussi reine de Hongrie.
Oui, en 1867, il ne faut pas l'oublier, elle est couronnée avec François-Joseph, reine apostolique de Hongrie, dans l'église Saint-Mathias de Budapest. Et je vous précise un détail qui n'est pas mince. Il y a un homme qui attendait cet événement depuis longtemps. C'est un homme à la tête d'oiseau, aux cheveux blancs, au grand nez. C'est Franz Liszt qui a prononcé des vœux mineurs à Rome et qui quitte sa retraite religieuse pour jouer au grand orgue de l'église Saint-Mathias le 8 juin 1867 sa messe du couronnement pour Erzsébet, car c'est Élisabeth en hongrois, qui est l'épouse apostolique de François-Joseph. Alors, l'événement politique est considérable. Un Habsbourg couronné roi de Hongrie après le contentieux politique et militaire épouvantable des années 1848, c'est une réussite grâce à Sissi, grâce à sa diplomatie. Elle a appris la langue hongroise. Elle a fait beaucoup de politique et de diplomatie.
Elle aimait beaucoup le sport, vous nous l'avez dit, Sissi, Jean Descartes, notamment l'équitation. Cette passion a failli lui coûter la vie. Que se passe-t-il l'été 1875 lors d'un séjour en France?
L'été 1875, elle a fait louer sous un faux nom un château en Seine-Maritime, près de Fécamp, à Sastol-Mauconduit. Et elle a fait des exercices équestres, comme d'habitude, démentiels. C'est une Amazone vraiment folle, mais si élégante. Et elle fait une chute de cheval. Et pendant un long moment, elle reste inconsciente. Alors, comme elle est là, incognito, ça pose un problème diplomatique considérable. Elle est venue avec son train spécial. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévient le président de la République, le monarchiste MacMahon, qui rêvait de la voir dans son train? Il ne l'avait pas vue parce que les rideaux étaient fermés en gare de Rouen. Est-ce qu'on prévient l'empereur François-Joseph? Non, elle retrouve ses esprits, mais François-Joseph a eu la peur de sa vie. C'est une des grandes peurs de François-Joseph, qui était toujours inquiet quand elle partait, mais il lui avait dit avec beaucoup d'élégance « Je préfère te savoir heureuse loin de moi que malheureuse avec moi. »
Et pourtant, elle était peut-être un peu dépressive. Avec les mots d'aujourd'hui ou les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, on dirait bipolaire.
Alors, je ne sais pas si on irait jusqu'à bipolaire. Non, je dirais, elle voulait vivre comme une bourgeoise avec son mari et ses enfants. Mmh. Et il y avait 15 dames d'honneur, 14 femmes de chambre, 12 maîtres d'hôtel, etc. Elle n'arrivait pas à être seule, sauf quand elle partait avec l'empereur faire des expéditions en montagne. Alors, il faut noter une chose, le public doit bien savoir qu'à partir des années 1890, ils vont voyager beaucoup ensemble, et souvent en France et en Suisse. L'empereur en complet veston, ce qui est un événement, il est furieux parce qu'on le reconnaît quand même avec ses favoris, et Elisabeth au Cap Martin, elles vont rencontrer l'impératrice Eugénie, la reine Victoria, ça sera assez étonnant. Et jusqu'au bout, je pense qu'il y aura un grand amour après des crises terribles. L'archiduchesse Marie-Valérie, leur quatrième et dernier enfant, né en Hongrie, j'ai eu accès à sa correspondance. Elle sera stupéfaite de découvrir l'amour entre ses parents qu'elle ne soupçonnait pas en lisant leur correspondance après leur mort.
Merci beaucoup Jean Descartes. Deux livres à citer, ce Sissi aussi libre que le vent, livre pour enfants coécrit avec Sylvie Bossier, et puis des dessins d'Odilon Torel, c'est chez Perrin et Grunt, il sort aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'est la journée,
la
journée des femmes. On peut dire que Sissi a été une femme libre et une pionnière, et puis François-Joseph et Sissi, Le Devoir et la Rébellion, c'est chez Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.